Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Gilles Berset.
Bonjour.
Bienvenue, professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez publié « Travailler, travailleurs, mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse » aux éditions De Bock supérieures. Je le prononce un peu à la belge parce que sinon c'est De Bock. Léonidas Kalogiropoulos, bonjour.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Bon, les habitués auront bien compris que ce sujet sur le rôle des entrepreneurs avec les JO, c'est une idée qui vient de vous.
Écoutez, je serais ravi en tous les cas de la traiter.
Bon, bonjour Xavier Timbaud.
Bonjour Nicolas Doze.
Bienvenue, directeur principal de l'OFCE. Alors voilà, Gilbert, je me tourne vers vous sur l'assurance chômage, sujet que vous connaissez évidemment éminemment bien. Donc il y aura un durcissement des conditions d'accès pour avoir... Pour être indemnisé, aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois. Il y aura très probablement un allongement du délai de carence. Si vous êtes licencié ou vous négociez une rupture conventionnelle, vous avez une indemnité de départ en fonction de la taille de cette indemnité. On vous dit, vous n'avez pas droit tout de suite à l'assurance chômage et le délai de carence est de 6 mois maximum. Et BFM Business vous informe ce matin que si le chômage passe sous les 6%, on en est loin. À ce moment-là, effectivement, il y aura une nouvelle réduction de la durée d'indemnisation qui est passée à 18 mois pour les moins de 53 ans. Gabriel Attal, un temps, mais il n'en parle plus, avait évoqué l'idée de descendre à 12 mois, c'est-à-dire la durée pratiquée en Allemagne. Cette réforme de l'assurance chômage, comment la regardez-vous, Gilles Berset ? On est en train de toucher un peu à tous les critères, y compris des critères qui ont surtout un objectif qui consiste à réaliser des économies.
Différents travaux ont montré que les durées d'indemnisation jouaient assez fortement, assez significativement sur la vitesse de reprise d'emploi.
Absolument.
Ça peut justifier une réduction des durées d'indemnisation, surtout que la France, parmi les pays de l'OCDE, est l'un des pays, sinon le pays dans lequel la durée d'indemnisation est la plus longue. Néanmoins, le gouvernement était pris dans un problème de cohérence de discours, puisqu'il a invoqué, il y a un an et demi, la contracyclicalité pour réduire la durée d'indemnisation, en disant...
Dit autrement, je réforme si voilà. Ça va bien, et je durcis quand les choses vont bien et j'assouplis quand les choses vont mal.
Absolument. Et donc la baisse du taux de chômage dont on bénéficie depuis maintenant pas mal d'années, depuis maintenant 8 ans.
Qui remontait quand même, Gilbert. Hein.
Voilà, qui remontait légèrement.
Oui, on est à 7,5%. On était à 7,1%.
Enfin, on était à 10,5%.
Oui, voilà. On est bien d'accord.
Et cette baisse du taux de chômage pouvait s'accompagner d'une baisse des durées d'indemnisation. C'était toute logique de la contracyclicalité. Baisser les durées d'indemnisation maintenant aurait été contradictoire avec le discours qu'on tenait il y a un an et demi. Donc ce qui a été privilégié est ici, si j'en crois vos informations, la cohérence du discours. On peut s'en féliciter. On peut s'en féliciter. Parce que dire un discours politique doit être cohérent dans son action et dans ses ensuite décisions de politique économique. C'est ce qui fait la crédibilité, c'est ce qui fait de la confiance. Et ça joue beaucoup sur l'efficacité des mesures, des choix de politique économique. Donc, malgré ce que j'ai commencé à dire, à savoir que les durées d'indemnisation ont un effet sur la rapidité de reprise d'emploi, sur le fait que la France reste l'un des pays, sinon le pays dans lequel les durées d'indemnisation sont les plus longues, il est bon, quand même, de jouer sur la cohérence du discours. Et donc, en période d'augmentation du chômage, de garder cette cohérence sans baisser, c'est-à-dire ne pas baisser la durée d'indemnisation, ou en tout cas renvoyer cette baisse à des périodes meilleures en termes de taux de chômage.
6%, de toute façon, on n'y est pas.
Et on n'y sera sans doute pas.
C'est pas la direction qu'on est en train de
dans
prendre.
Dans ce quinquennat. On n'y sera sans doute pas dans ce quinquennat.
Une réflexion, Xavier, ou alors Léonidas, sur ces éléments.
Moi, je trouve qu'il est cohérent que l'on ait... c'est une logique que tout le monde peut comprendre. Enfin, c'est aussi à propos de la cohérence des actions politiques. Chacun peut comprendre qu'on soit... particulièrement en accompagnement lorsque le marché du travail est très difficile et qu'on le soit moins et qu'on incite à trouver un emploi quand il y a des offres. Maintenant, je trouve aussi que lorsqu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, c'est aussi un paramètre, et c'est un paramètre que l'on constate aujourd'hui. Ça pourrait aussi être un critère.
C'est le critère mis en avant par Stéphane Carcillo, qui est assez spécialisé du sujet, qui considère qu'on est encore dans un marché en tension, ce qui justifierait, malgré une petite hausse du taux de chômage, que l'on agisse sur le paramètre de la durée d'indemnisation.
Et je pense que c'est effectivement un paramètre qui pourrait être examiné
à nouveau.
C'est le plus
efficace. C'est clairement celui-là qui a prouvé son efficacité. Xavier Tabo, là-dessus, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non,
il n'y a pas vraiment de nouvelles. C'est l'été prochain.
Il n'y a pas vraiment de nouvelles. La contracyclicité, c'est évidemment quelque chose d'important pour l'assurance chômage. Enfin, c'est même un peu le cœur de fonctionnement de cette assurance sociale. Après, je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu les détails. Par exemple, chercher à réduire l'indemnisation chômage, avoir un délai de carence pour les cadres qui font une rupture volontaire de contrat. Oui. Ça fait partie des choses, évidemment, qu'on peut vouloir souhaiter, parce que l'assurance chômage n'est pas nécessairement là pour permettre des périodes de transition un peu longues entre deux emplois pour des gens qui n'ont pas de difficulté à trouver des emplois. Ça, c'est une chose assez claire. Et donc, voilà, dire que l'assurance chômage, ça n'est pas ça, ça me paraît quelque chose d'assez important.
Oui, il faut le rappeler.
Clairement.
Voilà, après, quand on réduit la durée d'indemnisation, il faut voir aussi que ça va avoir, alors on peut dire à la marge, mais c'est une marge qui peut être assez grande, des effets sur des gens qui ont vraiment des difficultés pour retrouver des emplois, parce qu'ils sont loin de l'emploi. Donc, ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est qu'il y a des mesures d'accompagnement actives qui sont associées à ces mesures de réduction d'assurance chômage et qui d'ailleurs peuvent aussi lever ou en tout cas fournir des dispositifs complémentaires pour pouvoir permettre à des gens qui sont loin de l'emploi, qui sont en situation difficile, qui sont dans des reconversions profondes, hein, parce que tout le monde n'est pas entre deux emplois avec un capital humain important. On aimerait avoir aussi des propositions là-dessus. Bon, ça reste pour le moment reporté à une situation du chômage qui s'améliore. Donc, on peut dire que pour le moment, le sujet n'est pas urgent, mais voilà, je pense que c'est quand même des choses à rappeler. La justice dans l'assurance chômage, elle passe par ça, c'est-à-dire ceux qui effectivement peuvent retrouver un emploi rapidement, il n'y a pas de raison de les indemniser très longtemps. Ceux qui sont très loin de l'emploi, il ne faut pas que les indemniser.
C'est probablement l'un des parents pauvres de notre dispositif de retour à l'emploi, ce qui nous différencie d'ailleurs avec des pays qui dépensent beaucoup d'argent dans ce domaine, mais avec des résultats probants. Vous avez longtemps dirigé le groupe d'experts sur le SMIC, Gilbert Sette. Le patron de Michelin, Florent Ménégaud, alors là, dans le JDD, il s'exprime avec un discours très social. C'est du Michelin, la main sur le cœur, début du XXe siècle. Mais quand il avait déclaré que le SMIC n'était pas décent, alors il fait ce qu'il veut dans son entreprise, il a la capacité de payer deux SMIC, un salarié parisien, très bien. Mais ajouter que le SMIC n'est pas décent, où là, on implique l'intégralité de ce dispositif de salaire minimum, ça allait un peu plus loin qu'une simple décision de gouvernance interne. Comment vous avez vécu cette déclaration du patron de Michelin ?
Oh, je l'ai vécu ni bien ni mal.
Non, mais voilà, donc, je pense que vous avez provoqué... pas cessé de manger et de dormir. Mais
ça a provoqué un certain étonnement. Pourquoi un certain étonnement ? Parce que, d'une part, quand on compare le niveau de notre salaire minimum à celui qui existe dans d'autres pays, en parité de pouvoir d'achat...
Mais ils le reconnaissaient.
En parité de pouvoir d'achat. On est élevé. Oui. On est élevé, sinon l'un des deux ou trois plus élevés parmi tous les pays de l'OCDE qui disposent d'un salaire minimum. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Pour l'entreprise Michelin, j'aimerais quand même savoir quelle est la proportion de personnes qui peuvent être au SMIC dans les sous-traitants ou dans les activités externalisées par le groupe Michelin. On peut penser au nettoyage, on peut penser à la restauration, on peut penser...
Il parle de ses salariés, il parle pas de ses sous-traitants.
On peut penser à ce genre d'activité. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est évidemment... que ce qui est dur dans le fait d'être au SMIC, c'est pas simplement d'être au SMIC, c'est le fait parfois de le rester durablement.
Ça, c'est l'autre sujet.
Et c'est le point sur lequel les rapports du groupe d'experts sur le SMIC ont mis énormément d'accent sur les 7-8 ans pendant lesquels j'ai dirigé ce groupe, pour dire, attention, il faut accompagner des gens pour sortir
du SMIC.
Et ça, c'est d'une complexité inouï.
Vous avez vu le pré-rapport Bozio-Vasmer sur
c'est
le sujet, qui vous dit qu'on n'a pas la solution.
Alors, il y a des phénomènes de trappe qu'on a évoqués d'ailleurs sur ce plateau pas mal de fois. Hein. Savoir que pour un salarié à temps plein au SMIC, l'augmentation de 100 euros par mois de son revenu disponible correspond à une augmentation de coûts pour l'entreprise de près de 500 euros. Donc il y a un phénomène qui est lié à la superposition des dégressivités, des exonérations de charges sociales, des soutiens aux bas revenus, primes d'activité, d'aide au logement, etc. Et puis la progressivité de l'impôt sur le revenu qui aboutit à cette distance énorme. Donc ça, il faut le revoir de fond en comble.
Personne n'a la solution pour le.
Mais personne n'a la solution.
J'ai raconté la semaine dernière que les Échos ont fait un graphique relatant tout l'historique des baisses de cotises depuis 1980. Le graphique, vous le regardez, vous y pigez rien.
On a publié ça. Faut confier ça à l'intelligence.
On a publié ça. La complexité du graphique est révélatrice de la complexité de la solution.
On a publié ça dans le groupe d'experts sur le SWIC. Simplement, faut pas se leurrer. Revoir à coût nul, c'est-à-dire à coût inchangé pour les finances publiques, revoir à coût nul notre système d'exonération de charges sociales pour adoucir la dégressivité. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants parmi les entreprises. Et les perdants peuvent être les entreprises industrielles, les gagnants, les entreprises de services.
Oui,
pareil pour la dégressivité des soutiens aux revenus. Oui. Il y aura des gagnants et des perdants parmi les ménages et parmi des ménages qui ne sont pas des nantis. Donc, c'est quelque chose de complexe.
C'est exactement ce que dit ce pré-rapport. Il faut accepter de faire des perdants. J'ai l'impression, comme je vous le disais avant l'émission, j'ai l'impression qu'ils ont publié ce pré-rapport pour alerter sur le fait que le rapport final de juin, ça n'allait pas être la martingale gagnante avec
absolument
la solution de l'ismicardisation où j'appuie sur le bouton et c'est fait.
Surtout à coup nul.
Oui, Léonidas. Non, mais après, je voudrais revenir sur les propos du patron Michelin.
Oui, le patron Michelin. Mais cela dit, c'est le cœur du sujet, parce que l'on a fabriqué cette superposition d'accompagnement qui fait que les gens sont bloqués au SMIC.
Et le phénomène de l'indexation du seul SMIC sur l'inflation.
Non, mais
il a augmenté 10 ou 12
fois. Très objectivement, on a fabriqué un système pour les temps de crise. Et donc on a fabriqué un système qui est un accompagnement de la difficulté de pouvoir d'achat des gens qui travaillent et des gens pour qui le travail ne rémunère pas, ce qui est nous pose un problème à nous et qui renvoie d'ailleurs aux propos du président Michelin. Il faut que le travail rémunère. Enfin, c'est le levier de l'émancipation, c'est la promesse de notre modèle, c'est que vous travaillez, vous vivez mieux ou bien, et vous ne travaillez pas, et cette tension-là vous amène à retourner vers l'emploi.
D'accord, c'est tout que ça, le travail paie, que le salaire net augmente, c'est l'antienne de Gabriel Attal, mais personne n'a le début d'une solution.
On a construit tellement de mécanismes pour accompagner les bas salaires qu'ils bloquent le tout. Maintenant, le débloquer, c'est véritablement l'enjeu d'une réforme politique majeure, et c'est vrai que on en voit les prémices, il va falloir que l'on s'attaque à ce sujet. C'est le cœur du sujet. Le modèle de la politique économique qui est menée, qui est de pousser le pays vers le plein emploi, qui est un modèle vertueux. Je pense que est-ce qu'on y arrive ou est-ce qu'on n'y arrive pas, c'est un autre sujet, mais en soi, c'est une ambition qui est à la fois économique et sociale.
Vaut mieux celle-là que l'inverse, mais
on est bien d'accord. Ça a aussi pour objectif d'aller résorber nos déficits, mais ça passe nécessairement par la remise à plat. Alors, je ne sais pas s'il faut le confier à une intelligence artificielle compte tenu de la complexité des paramètres
à faire jouer. Elle aurait du mal.
Elle aurait du mal. Tous les cas, c'est peut-être un endroit où elle pourrait faire la démonstration de ses performances. Mais effectivement, passer à côté de cette réforme, c'est passer à côté de
l'essentiel. Le problème, Léonidas, c'est qu'on est bien conscient de l'histoire. Ça a été effectivement, Gilbert le rappelle, ça a été parfaitement analysé. Le diagnostic est là, le remède, je ne sais pas. Xavier Thimbault, cette histoire vous fait... On en a parlé mille fois et je pense qu'on va continuer en fait.
Voilà, parce qu'on sait pas. Juste deux, trois choses, juste pour compléter déjà ce qui a été dit. Donc effectivement, on a un système avec une taxation marginale implicite qui est très forte. C'est aussi lié au fait qu'en fait, il y a quand même des exonérations de charges très importantes au niveau du SMIC. Et si on a un des SMIC en parité de pouvoir d'achat, un des plus importants en Europe, on a aussi un des coûts du travail au SMIC les plus bas en Europe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on visait le plein emploi.
Absolument.
Et comment on visait le plein emploi ? On le visait en faisant en sorte que les emplois peu qualifiés soient peu coûteux, façon à pouvoir produire en particulier des services peu chers. Et en fait, la méthode par laquelle on est arrivé au plein emploi, c'est qu'on a subventionné les services de façon à ce qu'ils soient peu chers, donc que les gens qui ont un pouvoir d'achat intermédiaire et supérieur puissent acheter des services, avec des rémunérations dans le secteur des services qui sont suffisantes, en tout cas pas indécentes, et de fait, on fait une forme de subvention de l'industrie vers les services par ce mécanisme-là. Mais en fait, quand on dit qu'on subventionne les services, c'est qu'on subventionne les consommateurs des services aujourd'hui. Donc il ne faut pas oublier ça non plus dans les perdants, c'est en fait aussi un des aspects dans lequel les choses vont être perdues. Enfin, je veux dire, les gens qui ont des nounous aujourd'hui, les rémunèrent... un tarif qui est relativement bas par rapport à tout ce qui se fait par ailleurs dans le monde. Donc, c'est une question. Ça, c'est le premier point. Après, moi, je trouve le débat sur le salaire décent très intéressant. Ah. Même si, bon, le paternalisme de Michelin, on voit que c'est quelque chose qui a la vie dure. Mais justement.
C'est une marque de fabrique.
C'est une image de marque. Mais justement, je pense que ça vaut la peine quand même de réfléchir un peu à ce paternalisme. Parce que je pense que dans la réflexion de Michelin, il y a l'idée que la rémunération, la plus basse, elle est faite pour un foyer monoactif. Et pas pour un foyer biactif. Et ça, c'est aussi une autre question très importante dans notre système de conception des salaires. La pauvreté, elle n'est pas simplement liée au fait d'être au SMIC, elle est aussi et surtout liée au fait d'être, un, au SMIC dans un foyer où il y a un seul des adultes qui travaillent, et encore plus dans un foyer monoparental où un des actifs travaille à temps partiel et a du mal à payer la garde d'enfants.
C'est la théorie de Gilbert dans son dernier livre.
Hein. C'est pas une théorie, c'est un fait. Tout mon respect pour Gilbert, mais ça c'est quelque chose qui. Mais c'est quand même important à mettre sur la table, parce que dans notre perception de ce qui est un salaire décent, si on traite pas la question de la biactivité, on va vite dire des grosses bêtises. Et effectivement, une famille de deux adultes et de deux enfants avec un SMIC. Oui, ça c'est sûr, c'est une rémunération qui n'est pas décente. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du seuil de pauvreté.
Mais quelqu'un qui vit seul avec son SMIC...
Mais un célibataire, et surtout un couple biactif...
Ils prennent effectivement...
Où l'homme et la femme travaillent.
Oui.
Et l'homme et la femme travaillent à temps plein. Eh bien, les conditions de rémunération ne sont pas les mêmes. Alors après, il y a la question de la garde d'enfants, il y a la question de comment on subventionne la garde d'enfants. Est-ce qu'on le fait par des subventions au bas salaire pour que ça profite à tout le monde, ou est-ce qu'on le fait par des subventions qui sont ciblées sur les bas revenus? Ça aussi, c'est une des questions importantes. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui... Enfin, je veux dire, si le paternalisme nous dérange aujourd'hui, c'est parce que derrière le paternalisme, il y a ce modèle du foyer monoactif et pas biactif.
C'était l'objectif de la prime d'activité, de corriger une partie de ce qu'on vient de décrire. Allez-y, Gilles Berset.
Oui, prime d'activité, juste un point, puis je reviendrai là-dessus. Prime d'activité, faut bien voir que personne ne vit avec simplement le SMIC. Personne. Pour dire les choses, par exemple, pour donner un chiffre, un salarié célibataire à temps plein au SMIC, touche environ 240 euros par mois de prime d'activité. Vous voyez, c'est un complément.
1400 euros net de SMIC pour un temps plein 35
c'est
heures.
Pas, attendez, c'est
et effectivement, pas, quelques 240 ou 250 euros.
On ne peut pas parler du SMIC de façon isolée du système de soutien en bas revenu. Mais comme l'a bien rappelé Xavier, ce que je souligne dans mon bouquin, c'est si on veut parler de la pauvreté au travail, des travailleurs pauvres, il faut parler du temps partiel. Pour donner un chiffre, pour les travailleurs à temps plein, le taux de pauvreté est de 5%. Pour les travailleurs à temps partiel et dans des familles monoparentales, le taux de pauvreté est de 31%. Six fois plus. Les deux principaux facteurs de pauvreté des travailleurs sont le faible nombre d'heures de travail travaillées, donc c'est la quotité de travail, et puis d'autre part les charges familiales. Vous voyez, c'est ça les deux principaux facteurs de pauvreté. Oui. Le salaire horaire, et le SMIC est un salaire horaire, bien derrière, mais très loin derrière, comme facteur de pauvreté des travailleurs. Mais donc, si on veut s'attaquer à la pauvreté des travailleurs, faut surtout s'attaquer
au temps partiel
subi. Contraint.
Oui,
c'est-à-dire les gens qui voudraient travailler davantage. Comment on peut les amener
très bien,
travailler davantage?
Je me demande comment on fait.
Et en Allemagne, il y a eu des choses qui ont été faites. Par exemple, au début de l'année 2019, c'est une loi qui a été votée en 2018 en Allemagne. Début de l'année 2019, vous voyez, quand un salarié est à temps partiel, voudrait un temps plein et que dans son entreprise des temps pleins sont créés, en France comme en Allemagne, il est possible pour le salarié de dire « je voudrais bénéficier de ce temps plein ». En France comme en Allemagne, auparavant, le chef d'entreprise pouvait dire « non, je refuse votre passage à temps plein ». Maintenant en Allemagne, enfin maintenant depuis 2019, le chef d'entreprise doit motiver ce refus.
D'accord.
Motiver ce refus.
Non, mais
ce qui donne une base concrète aux salariés pour contester ce motif.
Non, mais ça,
vous voyez, et l'Allemagne est justement en train d'évaluer ce dispositif avec une distance de 5 ans pour savoir si ça a été efficace ou pas, qu'est-ce que ça a produit. Eh bien, il faut s'inspirer peut-être de ça.
Néanmoins, réaction, on marque une pause après. Et puis...
Néanmoins, dans les emplois à temps partiel, il y en a énormément dans les services à la personne. Et ce que constatent les entreprises des services à la personne, c'est que la limite de passage au temps partiel au-delà d'un tiers de temps à peu près est une limite que les intervenants eux-mêmes ne veulent pas franchir parce qu'ils perdent énormément de dispositifs d'accompagnement pour les bas revenus s'ils dépassent ce tiers de temps. Et donc on a une espèce de limite pour les temps partiels et qui gêne d'ailleurs les entreprises de services à la personne. Elles préféreraient largement avoir des intervenants moins nombreux qui travaillent à plein temps, mais ils ne veulent pas, c'est les intervenants eux-mêmes qui ne veulent pas, parce qu'il y a passé un certain niveau de temps partiel,
il y a des effets cliquets qui peuvent éteindre des...
Exactement.
Ça, c'est particulièrement vrai pour les temps partiels du second travailleur dans le foyer. C'est-à-dire dans un foyer où il y a un travailleur à temps complet et un travailleur à temps partiel, il y a une trappe à temps partiel qui est extrêmement forte. Oui. Du fait de ce que vous dites. Pour un travailleur célibataire ou dans une famille monoparentale, la question, c'est généralement pas les aides qu'on perd, c'est la question des gardes d'enfants. Mais aussi absolument critique dans ce schéma-là. Donc, et on peut pas distinguer, on peut pas ôter la question de la garde d'enfants de la question du temps partiel subi, choisi, parce que
les femmes qui choisissent du temps partiel,
de tout ce que l'on dit qu'elles le choisissent, mais en fait elles le choisissent parce qu'elles n'ont pas de mode de garde d'enfants.
Tout à fait, on est d'accord.
Voilà, donc faut faire attention aussi à la notion de choisir.
Sur ce sujet des services à la personne, quand Guillaume Richard nous raconte comment ça se passe dans son entreprise, alors il a que des gens déclarés, mais effectivement ce phénomène de refus de vivre une augmentation ou de vivre une augmentation du temps de travail est assez courant, quelquefois pour des raisons qui peuvent être les raisons décrites par
la totalité des entreprises,
mais quelquefois aussi pour des raisons de rationalité, parce qu'effectivement, eh bien, gagner un peu plus ou travailler un peu plus va éteindre tel ou tel dispositif et que on fait une sorte
d'arbitrage. On a calculé que ce qu'on allait gagner marginalement en plus par rapport à ce qu'on perd est tellement petit que on renonce
vous trouverez tout ça dans les rapports du groupe d'experts sur le SMIC.
Pour terminer, là, sur le chiffre 100 euros net au SMIC égale 483 euros coût pour l'employeur. En plus, celui qui touche 100 euros net, il perd un peu de prime d'activité, il paye un peu plus d'hier. Donc, pour qu'il ait vraiment 100 euros net, il faut aller au-delà. Il faut au moins 160.
Mais les solutions ne sont pas simples. Hein.
Non, mais...
Je voudrais, par exemple, revenir sur une solution dans un instant.
Et puis, quand même, je voudrais vous demander de réagir à la phrase de M. Ménégo chez Michelin. On ne veut pas fabriquer de la valeur sur le dos des gens. Alors, est-ce qu'il est totalement sincère? Je ne sais pas.